Bienvenue au pays des mythes et des légendes. Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. 22 hommes d'équipage, menés par Eurylope, sont partis en reconnaissance. Ils sont encerclés par des loups et des lions qui se comportent comme des animaux domestiques. Puis, ils sont invités chez une très belle femme. Seul Eurylope se méfie et préfère rester dehors. Il a bien raison, car ses compagnons sont aussitôt transformés en cochons par la magicienne Circé. Ulysse essaye de les sauver. En chemin, il reçoit l'aide du petit dieu Hermès pour trouver un antidote au poison maléfique. Ulysse obtient de Circé qu'elle rende leur forme humaine à ses compagnons. La magicienne les accueille désormais très chaleureusement et Ulysse succombe à ses charmes. Un brouillard dense, épais, recouvre la contrée où le bateau d'Ulysse vient d'arriver. Ici, jamais un rayon de soleil ne traverse l'épaisse couche grise. La voile blanche du bateau a filé tout droit, comme guidée par le vent, jusqu'à ce bord extrême de l'océan. Les marins sont silencieux, ils frissonnent d'angoisse. Ulysse n'est pas rassuré non plus, mais il a bien l'intention de suivre à la lettre les consignes que lui a données Circé. Il fait donc accoster son navire dès qu'il aperçoit sur le rivage un haut rocher qui semble aspirer deux rivières. On dirait que les cours d'eau sont engloutis par les profondeurs, juste sous ce bloc de pierre. Il s'agit du Cocyte et du Phlégéton, dit Hermès. Du ton de celui qui connaît tout cela par cœur. Ces deux rivières se jettent sous terre pour rejoindre le fleuve des enfers, le Styx. Tu en as déjà entendu parler ? Qui ne connaît pas le Styx ? S'exclame Ulysse, légèrement agacé. C'est par là que tu accompagnes les ombres des morts pour rejoindre le royaume d'Hadès. Hermès hausse les épaules, il se rassoit en bougonnant. Oh, puisque c'est ça, débrouille-toi tout seul. Sans plus lui prêter attention, Ulysse se souvient des paroles de Circé. Il se met à creuser un énorme trou à l'endroit précis où les rivières s'engouffrent sous la terre. Cela lui servira de tunnel pour accéder aux enfers. Ulysse doit d'abord répandre sur les bords de ce trou de l'eau contenant du miel, puis du bon vin, puis de la farine bien blanche. Le tout en l'honneur des morts des enfers. Dès qu'il a accompli cette première tâche, il s'éponge le front et dégaine son épée. On fait descendre du bateau un beau bélier, noir, gras à souhait. Ulysse sacrifie aussitôt l'animal en prononçant des prières à l'intention des dieux et des morts. Les paroles de Circé résonnent dans sa tête. « Quand tu auras ainsi honoré les morts, leurs ombres remonteront et seront attirées vers toi. Mais surtout, prends bien garde à ne laisser aucune ombre boire le sang du bélier noir avant Tirésias lui-même. Et ne l'oublie pas. » Il fait très sombre sur les bords de ces deux rivières souterraines. Ulysse approche une torche. Au loin, au fond du trou, il aperçoit des silhouettes noires. Il fait quelques pas, descend vers l'entrée des enfers et bientôt, les silhouettes se précisent. Ce sont les ombres d'hommes et de femmes qui résident au royaume d'Hadès. Toutes viennent vers Ulysse, attirées par ses offrandes. Aucun être vivant ne pourrait les regarder approcher sans frémir. Mais Ulysse est plus curieux qu'inquiet. Il s'enfonce un peu plus, sous la terre, en direction des ombres qui remontent vers lui. Il entend Hermès rester à l'entrée et qui rit. « Tu sais pourquoi je t'aime, roi d'Ithaque ? Parce que tu es aussi curieux que moi !» La première ombre qui rejoint Ulysse n'est pas celle d'un inconnu. « Elpénor ! » s'exclame-t-il joyeusement en reconnaissant le jeune homme. Mais Elpénor n'est pas joyeux du tout. Il a un visage douloureux et la tristesse habite chacun de ses mouvements. Ulysse veut le prendre dans ses bras, mais Elpénor a un geste pour l'en empêcher. Il lève vers lui un regard lourd de reproche. « Ulysse, pourquoi es-tu parti si vite de chez Circé? Tu as oublié de me rendre les hommages dus aux morts. Je ne peux accéder au royaume d'Hadès. Je suis une âme qui erre désespérément sur les rives du Styx, sans trouver le repos. » Ulysse devient pâle. Mais comment a-t-il pu oublier? Comment a-t-il pu prendre la mer sans avoir consacré à Elpénor le temps nécessaire pour le rituel du deuil? Il n'a pas glissé entre les lèvres du mort la pièce de monnaie qui lui donne accès aux enfers. Il n'a pas fait brûler son corps sur un bûcher. Il n'a pas répandu ses cendres. Ulysse baisse la tête. Il murmure. Mon impatience à rentrer chez moi est la cause de ma négligence. Oh, je suis impardonnable. L'ombre d'Elpénor n'est plus qu'à quelques pas du bélier noir. Déjà, elle se penche pour boire le sang. Ulysse est obligé de la repousser. Malheureux de devoir s'opposer ainsi à Elpénor, à qui il a déjà manqué de respect, mais déterminé à obéir à Circé. Personne ne doit toucher à ce sang avant l'ombre du devin Tirésias. L'ombre d'Elpénor sanglote. Pour se racheter, Ulysse lui promet. Dès que je serai sorti d'ici, je retournerai chez Circé. Je te jure, tu auras les funérailles qui te donneront accès au repos chez Hadès. Le jeune homme essuie ses yeux. Il demande. S'il te plaît, plante une rame. Tu sais celle que j'utilisais sur ton vaisseau? Plante-la debout, fièrement dressée, à l'endroit de mon tombeau. Ainsi, chacun pourra savoir que j'ai été malgré tout plein de courage. Et puis, dans un souffle, il ajoute « Si mon père passe un jour par là, il comprendra que je n'étais pas une femmelette. » Bouleversé par sa rencontre avec Elpénor, Ulysse n'a pas vu d'autres ombres approcher, une foule d'ombres qui se bousculent désormais autour de lui. Le devin Tirésias se trouverait-il parmi elles? Une multitude d'ombres viennent à la rencontre d'Ulysse, attiré par le sang du bélier noir qui coule jusque dans les profondeurs des enfers. Des jeunes gens morts trop tôt, des vieillards courbés par le poids des années, des guerriers tués sur le champ de bataille, tous accourent vers lui. Dans l'obscurité, Ulysse peine à discerner ceux qui s'approchent. Oh, il a beau être courageux, ses âmes de mort l'effraient un peu. Leurs plaintes, leurs gémissements surtout l'impressionnent. Debout, devant son bélier noir, l'épée en avant, il les repousse tous pour les empêcher de boire le sang avant Tirésias. Mais celui-ci se fait attendre. Ulysse transpire à grosses gouttes. « J'aurais dû emporter une torche », pense-t-il au moment où Hermès apparaît, portant justement une torche. Le petit dieu a un rire. « Tu es content que je sois de retour ?» Quand Ulysse l'avait un peu rabroué, Hermès avait décidé de bouder. Mais, n'y tenant plus, il vient voir comment se débrouille son protégé. Le soulagement d'Ulysse est grand. Non seulement Hermès apporte un peu de lumière dans cette atmosphère sombre et glaciale, mais surtout, il lui offre le réconfort de sa présence. Hermès promène la torche autour d'Ulysse. Il éclaire ainsi les morts qui se pressent devant eux. Ulysse croit apercevoir des visages connus. Mais Hermès lui chuchote « Occupe-toi d'abord de Tirésias !» Soudain, l'agitation cesse, les ombres s'écartent et un vieillard apparaît. Il a une longue barbe blanche et des yeux blancs d'aveugle. C'est Tirésias. Chacun connaît le rôle qu'il a joué pour les deux grands héros, Héraclès et Œdipe. Ulysse est impressionné de rencontrer le devin. Sans réfléchir, il met un genou à terre et il s'incline devant lui. Le devin avance pieds nus, comme à son habitude. Il remercie Ulysse d'un signe de tête et il se penche pour boire le sang du bélier noir. Un silence pesant règne. Plus une ombre ne gémit. Les lueurs de la torche dansent sur les parois de la fosse. Ulysse a le visage en feu. trop d'émotions, trop d'attentes aussi. Tirésias prend la parole. Merci pour ce sang noir qui réconforte mon âme. Qu'es-tu venu me demander, ô toi, Ulysse, qui erres loin de chez toi depuis si longtemps? Je suis venu humblement te demander, te supplier de m'indiquer le chemin du retour. Ô grand devin, répond Ulysse. Avisant un rocher, Tirésias va s'y asseoir. Ses yeux blancs semblent tourner à l'intérieur de lui-même. Tu vas devoir affronter de nombreux périls encore, Ulysse. Car tu n'ignores pas que tu as provoqué la colère de Poséidon en rendant son fils Polyphème aveugle. Rien n'est plus terrible que d'être privé de la lumière, tu sais. À ces mots prononcés par le devin aveugle, Ulysse baisse le regard. Tirésias poursuit. Mais le dieu de la mer n'est pas ton pire ennemi. Méfie-toi de tes hommes davantage encore. Vous passerez sans doute par l'île où paissent paisiblement les troupeaux du dieu soleil. N'y touchez à aucun prix, sinon tes compagnons périront tous, et tu ne regagneras ton île que seul et misérable. Ulysse frémit devant une telle prophétie. J'essaierai d'être vigilant, ô devin, mais dis-moi encore, si j'arrive à regagner mon île, que se passera-t-il? Les paroles de Tirésias sont aussi mystérieuses qu'apaisantes pour Ulysse. Tu parviendras à vaincre toutes les sangsues qui pillent ta maison et celles qui convoitent ta femme. Ensuite, tu partiras, une rame sur l'épaule. Tu marcheras jusqu'à un pays où les habitants ne connaissent ni le sel, ni la mer, ni les bateaux. Ils n'auront jamais vu de rame. Alors, tu planteras ta rame en terre, tu feras des offrandes à Poséidon, et sa colère contre toi s'éteindra. Une longue et paisible vieillesse t'attendra alors. Le roi d'Ithaque est fou de joie devant cet avenir inespéré. Je saurai déjouer les pièges, Tirésias. Oh, merci à toi. Mais le devin, dont la voix était jusqu'à présent pleine de bonté, se durcit soudain. Laisse-moi finir de parler. Ton pire ennemi, Ulysse, pire que Poséidon, pire que la trahison de tes compagnons, c'est toi-même. Méfie-toi de tes aveuglements, garde le cap, reste fidèle à toi-même, sinon tu périras. Et sur ces mots, le devin se relève, il disparaît dans les profondeurs des enfers. C'est alors que les autres ombres s'approchent à nouveau du bélier. Hermès promène sa torche pour permettre à Ulysse de les regarder et de choisir celles avec lesquelles il a envie de parler. Celles-là et celles-là seulement seront autorisées à boire le sang du bélier noir. Ulysse réfléchit encore aux dernières paroles, glaciales, de Tirésias. Il jette un regard distrait sur les ombres. Alors, au milieu des visages tendus vers lui, il en reconnaît un qui le bouleverse profondément. Le visage de quelqu'un qui ne s'attendait pas à rencontrer là, parmi les morts. Quel choc ! Ulysse en a le souffle coupé. Dans la foule des ombres des morts qui s'approchent du bélier, il vient de reconnaître sa propre mère. Maman ! Crie-t-il. Hermès sursaute. Comme ce mot d'enfant dans la bouche du héros de la guerre de Troie résonne étrangement. Hermès pense aussitôt à sa propre mère, Maïa. Il ferme un instant les yeux, il revoit son regard de miel. L'odeur de ses longs cheveux de soie lui emplit les narines. On n'oublie jamais l'enfant qu'on a été. On n'oublie jamais le parfum de la peau de sa mère. Quand il rouvre les yeux, il aperçoit Ulysse qui court les bras écartés vers l'ombre de sa mère, Anticlée. Une fois, deux fois, trois fois, il tente de l'étreindre, mais ses bras se referment sur le vide. « Tu peux discuter avec les ombres des morts, » lui dit alors doucement Hermès en lui posant la main sur l'épaule. « Tu peux les voir, mais tu ne peux pas les toucher. Ce sont des âmes. » Ulysse en a le cœur déchiré. Il ne souhaite qu'une seule chose au monde, embrasser sa mère, poser la tête contre sa poitrine, lui baiser les mains. Mais c'est impossible. « Laisse-la boire le sang, » propose Hermès. « Ainsi, un peu de vie lui reviendra et elle te reconnaîtra. » Ulysse suit le conseil d'Hermès. Et effectivement, après avoir bu, sa mère le reconnaît. « Oh, ma mère !» dit Ulysse d'une voix remplie de larmes. « Te voici au royaume des morts. Mais que t'est-il arrivé? Qui t'a fait du mal? Quelle maladie a dévoré ton corps? Quand je suis partie, tu étais encore si pleine de vie. » Anticlée interrompt Ulysse. « Dis-moi, toi, mon enfant, que fais-tu dans cet endroit où aucun vivant ne peut venir sans péril ?» Ulysse reconnaît bien là les paroles d'une mère aimante. « Ne crains rien, mère. Je ne suis ici que pour mieux pouvoir retourner chez nous. Il ne m'arrivera rien. Mais toi, pourquoi es-tu là? Qui est responsable de ta mort ?» Anticlée lui répond. « Personne d'autre que toi, mon fils, n'a causé ma perte. Car c'est la douleur de ton absence qui m'a conduite ici. Je suis morte de chagrin, il y a quelques jours à peine. » Apprendre la mort de sa mère par sa faute, le jour où on la retrouve après 10 ans d'absence, oh, quel étrange destin que celui d'Ulysse. D'une voix tremblante, il l'interroge encore. « Et comment va père? Et mon fils Télémaque? Et ma chère Pénélope? Tout le monde m'a oublié là-bas, n'est-ce pas? Elle m'a remplacée dans son lit et dans son cœur. » Un sourire apparaît sur le beau visage ridé de sa mère. « As-tu donc si peu confiance dans les liens que tu as noués avec tes proches? As-tu donc si peu confiance en toi, mon fils? Laërte, ton père, vit replié sur ses terres. Il cultive ses champs et ses vignes. Il dort par terre. Il se nourrit d'un rien. Il ne voit personne. La douleur le ronge, lui aussi, celle de ton absence, et sa vie ne tient qu'à un fil. Comme Pénélope, ta femme, pour elle aussi, la vie ne tient qu'à un fil. Chaque jour, elle le tisse. Et chaque nuit, elle le défait. Elle défait ce qu'elle a tissé en pleurant et en soupirant après toi. » Ulysse se sent envahi par une bouffée de bonheur. Ainsi, il compte encore. Ainsi, il n'est pas mort dans leur cœur. Mais pourquoi défaire la nuit ce qu'elle a tissé dans la journée ? Le sourire de sa mère s'efface. Ah, mon fils, ce que vit Pénélope est bien cruel. Nombreux sont les hommes qui veulent l'épouser. Ils prétendent tous que tu es mort, et ils se sont installés chez toi dans ta maison. Oh, ils ne sont guère plus âgés que ton fils. Ils font la fête du matin au soir, ils boivent ton vin, ils mangent tes provisions, ils pillent ton bien peu à peu. Ils ont décrété qu'ils ne partiraient pas, tant que Pénélope n'aura pas choisi parmi eux son nouvel époux. Cette situation dure depuis des années, car ta femme, pour repousser ses prétendants, a promis qu'elle ferait son choix lorsqu'elle aura fini de tisser le linceul qui enveloppera le corps de Laërte, ton père, à sa mort. Voilà pourquoi elle le détisse chaque nuit, pour que ce linceul ne se termine jamais. Ulysse est bouleversé par ce qu'il vient d'apprendre. C'était donc cela, les sangsues auxquelles Tirésias a fait allusion. L'obstination fidèle de sa belle Pénélope ne l'étonne pas. Son stratagème lui paraît formidable. C'est elle que l'on devrait appeler Pénélope aux 1000 ruses, pense-t-il. Mais l'insupportable arrogance des prétendants, qui ripaillent dans sa maison, lui font bouillir le sang. Cependant, Anticlée n'a pas encore répondu à propos de Télémaque.